Bonjour à tous. Avant d'aller plus loin, donc je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon et vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et à la fin de l'épisode, je ferai un résumé, a sum up. Je ferai un résumé de tout ce que j'ai dit, mais en parlant à vitesse normale, donc plus rapidement. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Comment la langue, the language, comment la langue influence notre vision du monde. Le monde, the world. Donc, comment la langue influence notre vision du monde. Actuellement, il y a environ 7000 langues qui sont parlées dans le monde. 7000. Donc, il existe plein de manières différentes de décrire le monde et d'exprimer nos pensées. Décrire, to describe, exprimer, to express. Nos pensées, our thoughts. Donc, actuellement, il y a environ 7000 langues qui sont parlées dans le monde. Donc, il existe plein de manières différentes de décrire le monde et d'exprimer nos pensées. Personnellement, une des raisons pour lesquelles je trouve que c'est très beau d'apprendre d'autres langues, c'est que ça nous permet aussi de voir le monde d'une nouvelle manière et d'ouvrir notre esprit. Alors, ça nous permet, it enables us, ça nous permet aussi de voir le monde d'une nouvelle manière et d'ouvrir notre esprit, ouvrir, to open, notre esprit, our mind. Donc personnellement, une des raisons pour lesquelles je trouve que c'est très beau d'apprendre d'autres langues, c'est que ça nous permet aussi de voir le monde d'une nouvelle manière et d'ouvrir notre esprit. Tout ça pour dire, all that to say, tout ça pour dire, continuez d'apprendre le français, et d'apprendre d'autres langues si vous en avez envie. If you want to, si vous en avez envie. Donc, toutes ces langues nous permettent d'exprimer nos pensées et de décrire le monde qui nous entoure. Et inconsciemment, chaque langue nous influence différemment sur notre manière de voir le monde, sur notre manière de penser. Par exemple, en français, comme en espagnol, l'espagnol c'est Spanish, en français comme en espagnol ou en italien, les mots sont féminins ou masculins. So words are feminine or masculine. Donc par exemple en français comme en espagnol ou en italien, les mots sont féminins ou masculins. Par exemple en français, if you want to say a frog, it's une grenouille. La grenouille. Le mot « grenouille » est donc féminin. Mais en réalité, il y a des grenouilles mâles et des grenouilles femelles. You have male frogs and female frogs. Le mot « grenouille » est donc féminin, mais en réalité, il y a des grenouilles mâles et des grenouilles femelles. Et quand on est enfant, pendant longtemps, on a tendance à penser que les grenouilles sont toutes des femelles. Parce que le mot grenouille est féminin. So when you're a kid, you tend to think that all frogs are girls. Et quand on est enfant, pendant longtemps, on a tendance à penser que les grenouilles sont toutes des femelles, parce que le mot grenouille est féminin. Du moins, c'était mon cas. Du moins, is at least. Du moins, c'était mon cas. Un autre exemple, vous connaissez sûrement le célèbre sculpteur et peintre italien Michel-Ange. So do you remember? Sculpter is to sculpt, but in French we don't pronounce the P. Donc vous connaissez sûrement le célèbre sculpteur et peintre italien Michel-Ange. En italien, Michelangelo. Michel-Ange, il a sculpté des statues qui représentent différents moments de la journée. La journée, the day. Donc Michel-Ange, il a sculpté des statues qui représentent différents moments de la journée. Il y a une statue qui s'appelle l'aurore. aurora en italien, or in English, sunrise or dawn. En français et en italien, l'aurore, c'est un mot féminin. On dit une aurore. Et cette statue, l'aurore de Michel-Ange, représente une femme. It's the statue of a woman. Cette statue, l'aurore de Michel-Ange, représente une femme. Il y a une autre statue qui s'appelle le jour, the day, giorno en italien. En français et en italien, le jour, c'est un mot masculin. Et la statue, le jour, représente un homme. It's the statue of a man. La statue, le jour, représente un homme. Ensuite, il y a une statue qui s'appelle le crépuscule. Crepusculo en italien, sunset en anglais. Le crépuscule, c'est un mot masculin en français et en italien. Et cette statue, le crépuscule, représente également un homme. Et il y a une statue qui s'appelle la nuit, notte en italien. Et la nuit ou notte, c'est un mot féminin. Et cette statue, la nuit, représente une femme. C'est peut-être un hasard, mais c'est quand même probable que la langue ait influencé Michel-Ange dans son choix. Que la langue ait influencé, this is subjunctive. Donc c'est peut-être un hasard, mais c'est quand même probable que la langue ait influencé Michel-Ange dans son choix. Il y a un autre exemple très intéressant en Aymara. L'Aymara, c'est une langue qui est parlée par les Aymara. Les Aymara viennent d'Amérique du Sud. So the Aymaras are people from South America. Donc il y a un autre exemple très intéressant en Aymara. L'Aymara, donc, c'est une langue qui est parlée par les Aymara. Et les Aymara, c'est donc un peuple qui vient d'Amérique du Sud et ils sont principalement en Bolivie. Et donc, si on prend l'exemple du français ou de l'anglais, quand on parle du passé, when we talk about the past, quand on parle du passé, on le situe derrière nous. Et quand on parle du futur, on le situe devant nous. So when we talk about the past, we situate it behind us. And when we talk about the future, we situate it in front of us. Donc si on prend l'exemple du français ou de l'anglais, quand on parle du passé, on le situe derrière nous. Et quand on parle du futur, on le situe devant nous. En Aymara, so in the language Aymara, en Aymara, c'est l'inverse, c'est l'opposé. Le futur est derrière nous et le passé est devant nous. Pour les Aymara, le passé est une source de savoir. Le savoir, c'est knowledge. Le passé est une source de savoir et d'inspiration. Et le futur est considéré comme spéculation, comme quelque chose d'inconnu. Inconnu, so unknown. Donc le futur est considéré comme spéculation, comme quelque chose d'inconnu, comme quelque chose qu'on ne peut pas voir. Like something we cannot see. Comme quelque chose qu'on ne peut pas voir. Donc, d'une certaine manière, c'est assez logique de situer quelque chose qu'on ne peut pas voir derrière nous. Et à l'inverse, de situer quelque chose qu'on connaît, comme le passé, devant nous. It's quite logical to situate something we can't see, like the future, behind us, and something we can see, like the past, in front of us. Donc d'une certaine manière, c'est assez logique de situer quelque chose qu'on ne peut pas voir derrière nous, et à l'inverse, de situer quelque chose qu'on connaît, comme le passé, devant nous. Et la langue peut aussi affecter nos capacités. Par exemple, en France, si vous demandez à quelqu'un dans la rue, if you ask someone in the street, si vous demandez à quelqu'un dans la rue, excusez-moi, est-ce que vous savez où je peux trouver une station de métro? En général, la personne va répondre quelque chose comme « Oui, vous prenez la première à droite et ensuite la deuxième à gauche. » So you take the first on the right and then the second on the left. Donc par exemple, « Oui, vous prenez la première à droite et ensuite la deuxième à gauche. » On utilise beaucoup les mots « gauche » et « droite ». Eh bien, il y a une communauté. Eh bien is like « well ». Eh bien, il y a une communauté aborigène en Australie qui n'utilise pas vraiment ces mots-là, qui n'utilise pas vraiment la gauche et la droite. À la place, instead, à la place, dans cette communauté aborigène, on utilise les mots comme nord, sud, est, ouest. Donc, dans leur communauté, si quelqu'un demande à une autre personne « Excusez-moi, est-ce que vous savez où je peux trouver une poste ?» la personne répondra quelque chose comme « Oui, vous allez vers le nord et ensuite vous tournez vers l'est. » You go to the north and then you'll turn to the east. This can happen elsewhere, but it's quite uncommon and apparently in this community, everyone situate themselves with north, south, east, west, donc avec le nord, le sud, l'est et l'ouest. Si j'avais grandi dans cette communauté, peut-être que j'aurais le sens de l'orientation. Si j'avais grandi, if I had grown up, si j'avais grandi dans cette communauté, peut-être que j'aurais le sens de l'orientation. Le sens de l'orientation, the sense of direction. Peut-être que j'aurais le sens de l'orientation. Et est-ce que vous avez lu le très bon roman de George Orwell, 1984? Un roman, c'est a novel. Un roman. 1984. Est-ce que vous avez lu le très bon roman de George Orwell, 1984? Dans son roman, George Orwell montre que la langue peut aussi être un moyen de contrôler la pensée et donc de manipuler une population. Montrer, c'est to show. Donc dans son roman, George Orwell montre que la langue peut aussi être un moyen. Un moyen is a way. La langue peut aussi être un moyen de contrôler la pensée et donc de manipuler une population. Dans 1984, la société est dirigée par un régime totalitaire. Dirigée, c'est to lead. Donc, la société est dirigée, the society is led. Dans 1984, la société est dirigée par un régime totalitaire et ce régime a créé une nouvelle langue pour remplacer progressivement l'anglais. So they created a new language. Ce régime a créé une nouvelle langue pour remplacer progressivement l'anglais. Cette langue, c'est le novlang. In English, new speak. So this is the name of the language that they created. Cette langue, c'est le novlang, et donc en anglais, new speak. Une des caractéristiques du novlang, c'est que le vocabulaire est de plus en plus réduit. On supprime beaucoup de mots. Comme ça, on supprime plusieurs modes de pensée. Et en réduisant le vocabulaire, en réduisant is by reducing. En réduisant le vocabulaire d'une langue, c'est plus compliqué d'argumenter. Dans la vraie vie ou dans la vie réelle, c'est pareil. Une personne qui n'a pas beaucoup de vocabulaire a plus de problèmes pour argumenter. C'est la sensation qu'on a quand on apprend une langue. Par exemple, personnellement, j'ai appris l'allemand. L'allemand, c'est German. Donc personnellement, j'ai appris l'allemand. Et au début, at the beginning, au début, quand j'étais avec des amis allemands, et qu'on parlait de politique ou autre, et que la conversation était très intéressante, mais un peu complexe, Je voulais exprimer mes pensées, mais j'avais l'impression de parler comme une enfant. I felt like I was talking like a child. C'était très compliqué d'argumenter parce que je n'avais pas assez de vocabulaire. They would make amazing arguments and I would be like, yes, war is bad, something like this. You know that feeling where you feel very frustrated that you don't have the vocabulary. Donc c'est la sensation qu'on a quand on apprend une langue. Donc ce régime totalitaire, en réduisant le vocabulaire de la langue, eh ben ça devient plus compliqué pour la population d'argumenter. Dans 1984, il y a aussi un slogan qui est affiché un peu partout. Afficher quelque chose, c'est to display something. Par exemple, afficher un poster. Donc, dans 1984, il y a aussi un slogan qui est affiché un peu partout. Ce slogan, c'est « La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. » So, la guerre, c'est la paix. War is peace. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. Freedom is slavery. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Ignorance is strength. L'ignorance, c'est la force. So in 1984, this is the slogan that you can see a bit everywhere. Dans 1984, donc, il y a ce slogan qui est affiché un peu partout. Donc, en répétant ce slogan un peu partout, le sens de ces mots est transformé. Le sens d'un mot, c'est a word's meaning. Donc, en répétant ce slogan un peu partout, le sens de ces mots est transformé. Par exemple, le concept d'origine de la liberté est détruit. Détruire quelque chose, to destroy something. Donc, est détruit, is destroyed. Par exemple, le concept d'origine de la liberté est détruit. Et donc, si ce concept est détruit, alors on n'y pense plus. Then we don't think about it anymore. Alors, on n'y pense plus. Donc, si ce concept de liberté est détruit, alors on n'y pense plus et c'est plus simple pour un régime de supprimer cette liberté de son peuple. Si vous n'avez pas lu 1984, je vous le conseille vraiment. Conseiller, c'est to advise. Je vous le conseille vraiment. Et je vous conseille aussi un autre livre de George Orwell qui s'appelle La ferme des animaux, Animal Farm. La ferme des animaux en français. C'est un de mes livres préférés. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode et maintenant je vais vous faire la version à vitesse normale, donc plus rapide. Donc aujourd'hui, on a parlé d'un sujet très intéressant, comment la langue influence notre vision du monde. Actuellement, il y a environ 7000 langues qui sont parlées dans le monde. Donc il existe plein de manières différentes de décrire le monde et d'exprimer nos pensées. Personnellement, une des raisons pour lesquelles je trouve que c'est très beau d'apprendre d'autres langues, c'est que ça nous permet aussi de voir le monde d'une nouvelle manière et d'ouvrir notre esprit. Tout ça pour dire, comme je disais tout à l'heure, continuez d'apprendre le français et d'apprendre d'autres langues si vous en avez envie, bien sûr. Donc toutes ces langues nous permettent d'exprimer nos pensées et de décrire le monde qui nous entoure. Et inconsciemment, chaque langue nous influence différemment sur notre manière de voir le monde et sur notre manière de penser. Par exemple, en français comme en espagnol ou en italien, les mots sont féminins ou masculins. Par exemple, en français, on a le mot grenouille. Une grenouille ou la grenouille, c'est un mot féminin. Mais en réalité, il y a des grenouilles mâles et des grenouilles femelles, bien sûr. Et donc, quand on est enfant, pendant longtemps, on a tendance à penser que les grenouilles sont toutes des femelles, parce que le mot grenouille est féminin. Et comme je disais, du moins, c'était mon cas pendant très longtemps, je croyais que toutes les grenouilles étaient des femelles. Un autre exemple. Donc, je vous ai parlé du célèbre sculpteur et peintre italien Michel-Ange. Et donc, comme j'expliquais, Michel-Ange, il a sculpté des statues qui représentent différents moments de la journée. Donc, il y a la statue qui s'appelle l'aurore. Donc, en français, en italien, l'aurore, c'est un mot féminin. On dit une aurore. Et donc, cette statue, l'aurore de Michel-Ange, elle représente une femme. Il y a une autre statue qui s'appelle le jour. Et en français et en italien, le jour, c'est un mot masculin. Et cette statue, le jour, elle représente un homme. Ensuite, il y a la statue le crépuscule. Donc, le crépuscule, c'est un mot masculin en français et en italien aussi. Et donc, cette statue, le crépuscule, représente également un homme. Et pour finir, il y a une statue qui s'appelle la nuit. Et pareil, en italien ou en français, la nuit ou notte, c'est un mot féminin. Et cette statue, elle représente une femme. Donc, c'est peut-être un hasard, mais c'est quand même probable que la langue ait influencé Michel-Ange dans son choix. Alors, je vous ai parlé d'un autre exemple très intéressant en Aymara. Donc, l'Aymara, comme je disais, c'est une langue qui est parlée par les Aymara. Et les Aymara, donc, ils viennent d'Amérique du Sud et ils sont principalement en Bolivie. Donc, si on prend l'exemple du français ou de l'anglais, quand on parle du passé, on le situe derrière nous. Et quand on parle du futur, on le situe devant nous. Et donc, en Aymara, c'est l'inverse. Le futur est derrière nous et le passé est devant nous. Pour les Aymara, donc, le passé, c'est une source de savoir et d'inspiration. Et le futur est considéré comme spéculation, comme quelque chose d'inconnu, comme quelque chose qu'on ne peut pas voir. Donc, comme je disais, d'une certaine manière, c'est assez logique de situer quelque chose qu'on ne peut pas voir derrière nous et à l'inverse, de situer quelque chose qu'on connaît comme le passé devant nous. La langue peut aussi affecter nos capacités. Je vous ai donné l'exemple en France quand on demande à quelqu'un dans la rue, par exemple, « Excusez-moi, est-ce que vous savez où je peux trouver une station de métro ?» La plupart du temps, la personne va dire quelque chose comme « Oui, vous prenez la première à droite et ensuite la deuxième à gauche. » Donc on utilise beaucoup les mots « gauche » et « droite ». Je vous ai parlé de l'exemple d'une communauté aborigène en Australie qui n'utilise pas vraiment ces mots, donc la gauche et la droite. Et à la place, dans cette communauté, on va utiliser des mots comme « nord »,« sud »,« est », »,« ouest ». Je vous ai donné l'exemple, on imagine un petit dialogue de deux personnes dans cette communauté où il y a une personne qui demande « Excusez-moi, est-ce que vous savez où je peux trouver une poste ?» et l'autre personne répondrait quelque chose comme « Oui, vous allez vers le nord et ensuite vous tournez vers l'est. » Donc je disais en blaguant que si j'avais grandi dans cette communauté, peut-être que j'aurais le sens de l'orientation. Ensuite, je vous ai parlé du très bon roman de George Orwell, 1984. Donc, comme j'expliquais, George Orwell, dans son roman, il montre que la langue peut aussi être un moyen de contrôler la pensée et donc de manipuler une population. Dans 1984, la société elle est dirigée par un régime totalitaire, et ce régime a créé une nouvelle langue pour remplacer progressivement l'anglais. Cette langue, c'est le novlang, donc « newspeak » en anglais, et une des caractéristiques du novlang, c'est que le vocabulaire est de plus en plus réduit, donc on supprime beaucoup de mots, comme ça on supprime plusieurs modes de pensée. En réduisant le vocabulaire d'une langue, c'est plus compliqué d'argumenter, bien sûr. Dans la vraie vie, c'est pareil. Une personne qui n'a pas beaucoup de vocabulaire a plus de problèmes pour argumenter. Et comme je disais, c'est un peu la sensation qu'on a quand on apprend une langue. Et je vous ai donné l'exemple, mon exemple dans ma vie. Quand j'étais en Allemagne, j'ai appris l'allemand. Et au début, quand j'étais avec des amis allemands, on allait parler de politique ou autre, de conversations un peu complexes, mais très intéressantes. Et je voulais exprimer mes pensées, mais j'avais l'impression de parler comme une enfant. Donc c'était très compliqué pour moi d'argumenter parce que j'avais pas assez de vocabulaire. Ensuite, je vous ai parlé du slogan qui est souvent affiché un peu partout dans la société qui est décrite dans 1984. Ce slogan, c'est donc « La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force ». Et donc, en répétant ce slogan un peu partout, le sens de ces mots est transformé. Par exemple, le concept d'origine de la paix va être détruit, et donc si ce concept est détruit, alors on n'y pense plus, et c'est plus simple pour un régime de supprimer la liberté de son peuple. Voilà, comme je disais, si vous n'avez pas lu 1984, je vous le conseille vraiment, et je vous conseille aussi un autre livre de George Orwell qui s'appelle « La ferme des animaux ». Comme je disais, c'est un de mes livres préférés. C'est vraiment un très 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 bon livre. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut, salut !